Tu es, enfin, fait observer que beaucoup de pères et de docteurs ont pensé que saint Jean, dans son Apocalypse, a omis pour cette raison le nom de Dan et de sa tribu dans l'énumération qu'il nous fait au chapitre 7 de l'Apocalypse, des élus de chacune des tribus d'Israël. Personne ne comprend pourquoi il n'y a pas la tribu de Dan dans l'Apocalypse. Une pareille exclusion dans ce céleste dénombrement ressemble assez en effet à quelque mystérieux et terrible anathème, sans qu'on puisse toutefois en conclure avec certitude. L'Antéchrist sortira de la nation juive et se donnera pour Messie. Voilà, nous l'avons vu, ce que tous les docteurs sont unanimes à constater, ce que notre Seigneur confirme lui-même par ses mots. Si l'on vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Mais il le dit aux Juifs. Matthieu 24, verset 23. Quant au nom qu'il portera devant les hommes, jusqu'ici il est demeuré un mystère. Saint Jean l'appelle la bête, mais uniquement par allusion à sa dépravation et à sa férocité. La bête déchire et dévore tout ce qu'elle rencontre. Ainsi en sera-t-il de l'Antéchrist qui mutilera et dévorera toute chose sainte et sacrée. Tout ce qu'il entravera, ou simplement lui mettra un obstacle. Le sublime apôtre brûle, on le sent, de nous révéler ce nom. C'est pourquoi il se borne, Dieu ne le permettant pas, à nous le donner en chiffres pouvant se traduire par des caractères alphabétiques dont toutefois il nous tait la signification. Que celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et ce nombre est 666. Chapitre 13, verset 18. Combien de docteurs et de commentateurs se sont évertués à saisir la clé de ce nombre, à découvrir le nom caché qu'il exprime. Quelques-uns ont pensé, peut-être avec raison, que le nombre 666 de la bête apocalyptique était plutôt son chiffre d'ordre et de succession que son nom propre. Hein? Ce suppôt de Satan dans son orgueil pouvant très bien se présenter comme successeur du 666e de ces nombreux monarques qui ont régné par le monde depuis sa création. Ce qui ne l'empêcherait pas en même temps de prendre un nom correspondant à ce nombre. Bon, n'insistons pas, c'est la numérologie. Hein, faites très attention à la numérologie. Si à présent vous me demandez pourquoi Dieu permettra à Satan d'user d'un tel pouvoir et d'une telle séduction, je répondrai avec saint Paul, chapitre 2, verset 10 à 12. C'est parce que les hommes n'ont pas aimé la vérité qui eût été leur salut, que Dieu leur enverra les illusions si séduisantes qu'ils croiront à l'erreur. De sorte que, ayant refusé d'ouvrir les yeux à la vérité et s'étant livrés au mal, ils soient condamnés. Et Suarez de commenter, Dieu permettra pour un temps le triomphe de l'Antéchrist, surtout afin de punir l'aveuglement des pécheurs. Ceux-ci, n'ayant pas voulu adorer le vrai Messie, ni se laisser convaincre par sa doctrine et par ses miracles, Dieu permettra que par un juste châtiment, il s'attache à un faux Messie, ajoutant foi à son impiété, se faisant les disciples de sa vie dissolue. Voilà. Or, pour la grande tentation, pour le châtiment d'une part, de l'apostasie universelle, pour la récompense d'autre part de la fidélité des justes, Satan déchaîné recevra, comme à l'égard de Job, le pouvoir d'assouvir à un moment donné toute sa rage contre l'humanité. Relisez le livre de Job et comprenez comment Dieu permet. Eh bien, alors là, maintenant, comment la préparation de sa venue, je vais, pour ne pas être trop long ce soir, sauter cela, parce que c'est pas le plus important, puisque nous y sommes. Une chose de très grave. Mais bon, je prends le risque de vous le dire. Donc, ça, ce sont des juifs impies, non observants, non pieux, non moraux. Notre Messie n'est autre chose que la raison humaine parvenue à l'état viril. Ce n'est ni un roi, ni un fils de David, ni un faiseur de miracles. C'est l'affranchissement de notre race. Le Messie est venu pour nous le 28 septembre 1791 à la suite de la Déclaration des droits de l'homme. Archives israélites, année 1847. Et bon, Jacques Attali a des prédécesseurs. Son Dieu, le Dieu d'Israël, alors qu'il est, c'est le Dieu, comment dire, de la puissance. Bon. Mais là, j'insiste pas plus parce que je vais aller en prison et c'est pas bien. Voilà. Donc, bon, Maurice B est un peu lourd, hein, c'est l'époque qui le veut. Mais c'est très intéressant parce qu'il étudie énormément la liturgie synagogale. Et de manière très intéressante, parce que les Juifs attendent le Messie à tout prix. On m'a donné un livre sur toute la liturgie juive, un livre papier Bible. C'est vraiment, hein, l'an prochain à Jérusalem, c'est pas rien, hein. C'est un très très grand désir, hein. Un très grand désir. Mais ça se fera dans la vertu pour les Juifs sincères et de bonne foi. Alors, mais ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est la chute, avant quand même sa défaite, un petit peu son règne quand même, un petit peu croustillant, histoire de vous faire peur un tout petit peu. Eh ben, c'est dans l'Apocalypse, voilà. Et voilà, donc dans l'Apocalypse, vous avez toutes les descriptions. Si vous voulez vraiment ne pas dormir ce soir, je vais peut-être les passer. C'est les sept sauts, c'est les sept trompettes, enfin c'est très impressionnant. Et voilà. La rupture achevée des sept sauts du livre mystérieux. Sept anges en publient à son de trompe les inexorables décrets aggravés de plus grands maux encore. Cet autre ange, d'une voix tonnante, en résume les effets, prophétisant leur prompte exécution. Et je vis un ange puissant descendant du ciel, vêtu d'une nuée et un arc-en-ciel sur la tête. Son visage brillait comme le soleil, ses pieds comme deux colonnes de feu. Et posant le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, il poussa une clameur pareille à la voix d'un lion qui rugit, à laquelle sept tonnerres répondirent. Et il jura par celui qui vit dans les siècles qu'aucun délai ne sera plus accordé, mais qu'au jour où retentirait la septième trompette, le mystère de Dieu serait consommé, ainsi que l'ont annoncé les prophètes, ses serviteurs. Et là, vous avez les sept coupes également, qui sont absolument impressionnantes. « Elle est tombée !» crie un autre ange, « elle est tombée, cette grande Babylone !» qui a fait boire aux nations le vin de sa prostitution. Il le boira, le vin pur de la colère, crie aussitôt un autre ange, celui qui aura adoré la bête et reçu son caractère au front ou sur la main. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élèvera dans les siècles des siècles, et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui auront adoré la bête et son image, et qui auront porté le caractère de son nom. Ici est la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis une voix du ciel me disant, écris, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur dès à présent, dit l'Esprit. Ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et je vis une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un d'assis ressemblant au Fils de l'homme, ayant sur la tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Jésus pas content. Ouais. Jetez votre faux sur la terre, lui crie à l'instant un autre ange. C'est l'heure de la moisson et celle de la vendange. Les blés sont jaunes, les grappes sont mûres, et il jeta sa faux sur la terre. Et après cela, voilà que le tabernacle du ciel s'ouvrit. Et sept anges en sortirent, portant sept plaies ou fléaux. Ils étaient vêtus d'un lin pur et saint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et il leur fut donné sept coupes d'or, pleines de la colère de l'Éternel. Et j'entendis une voix terrible qui sortait du temple et qui dit aux sept anges, « Allez et répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier partit donc et répandit sa coupe sur la terre. Et aussitôt furent frappés d'une plaie douloureuse et des plus dangereuses ceux qui portaient le caractère de la bête et adoraient son image. Voilà. L'effusion de cette première coupe répond à l'éclat de la première trompette. annonçant un fléau tombant également sur la terre, et qui, par une grêle mêlée de sang et de substances enflammées, produira sur les arbres et les plantes de désastreux effets, et conséquemment de bien cruels et bien envenimés sur les hommes. Le premier ange ayant sonné de la trompette, il tomba sur la terre de la grêle et du feu mêlés de sang, et la troisième partie de la terre et des arbres, comme aussi de toutes les plantes, fut brûlée. Ça, on pense que Akita, c'est ça. C'est la première trompette. Le second ange répandit sa coupe sur la mer, et elle devint comme le sang d'un mort, et tout être vivant y périt. Ah ben, pour sauver la planète, hein. Ah, il n'y aura plus de poissons. Ah, ouais. Le troisième répandit la sienne sur les fleuves et les sources, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Vous êtes juste, Seigneur, qui êtes et qui avez été. Vous êtes saint dans vos jugements, parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Vous leur avez aussi donné du sang à boire, et ils en sont bien dignes. » Bon, on épargne la suite, voyez. Ah, quand même, hein, si. Le troisième ange sonna de la trompette, et une étoile ardente comme un flambeau tomba du ciel sur la troisième partie des fleuves et des fontaines. Et le nom de l'étoile était Absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Voilà. Il y aura des prodiges dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et je vis un aigle qui volait dans les airs, criant d'une grande voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des trois derniers fléaux que les trois derniers anges sont prêts à déverser. » Et là, l'Antéchrist, qui aura le gouvernement mondial, la monnaie mondiale, le pouvoir, après des guerres multiples et variées, il aura la paix universelle. Vous aurez au mois de juin une gay pride obligatoire. Tous les enfants des écoles devront toutes sortir, machin, tout ça. Ça sera le mois de juin sera absolument impressionnant. Et tous les petits vieux seront euthanasiés, tous les malades seront euthanasiés, tous les dépressifs coûteront plus. Oh là là, les schizophrènes, les bipolaires qui nous coûtent des milliers d'euros et tout ça, fini. Là, l'économie merveilleuse. Pour qui tous les cathos ont voté à Versailles, comme dans le 16e arrondissement. Ah mais alors là, j'espère que lorsqu'on va les faire mourir de soif, ils se plaindront pas. Vous me direz, avec la dose de morphine qu'on donne dans ces conditions-là, voilà, vous vous plaignez pas. Ouais. Et la cinquième ange répandit sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume se couvrit de ténèbres, et les hommes se mordirent la langue dans l'excès de leur douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs souffrances et de leurs plaies, et ils n'en firent pas davantage pénitence de leurs œuvres. Je recommence pour ceux qui n'ont pas entendu. Ils n'en firent pas davantage pénitence. C'est ça le mystère de la fin des temps, voyez-vous, et de l'Antéchrist. C'est qu'on arrivera à un tel degré de haine et de conscience fausse que Dieu dira ben c'est plus possible, on peut pas, même avec ces fléaux là ils se convertissent pas. Et d'après des apparitions mariales, il y aura l'illumination des consciences, un grand miracle, un signe dans le ciel, une croix. Ben, les gens ils diront mais c'est quand même curieux que ça soit pas un croissant, que ça soit pas un machin. Voilà. L'effusion de cette cinquième coupe répond encore exactement à l'éclat de la cinquième trompette annonçant un obscurcissement de l'atmosphère dû à la chute d'une immense météorite qui, crevant la croûte terrestre, fait jaillir de ses abîmes une épaisse colonne de lave. Et pour comble de malheur, ce fléau coïncide avec une invasion de sauterelles d'un genre particulier et tout à fait pernicieux. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il s'en éleva une fumée comme la fumée d'une grande fournaise dans l'air, et le soleil fut obscurci. Et des sauterelles mêlées à cette fumée se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir pareil à celui des scorpions. Bon. Très bien. Pour roi, elles avaient l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, en grec Apollon, c'est-à-dire l'exterminateur. Dans cette étoile tombée qui ouvre le puits de l'abîme, d'où s'élève une épaisse fumée, les commentateurs modernes ont vu si clairement Luther, météore ténébreux, lui aussi tombé du ciel, et par ses funestes erreurs, obscurcissant le soleil et la vérité. Bon, si vous voulez, avec toutes les querelles qu'il y a eu avec la crise spirituelle de Luther et toutes les guerres qui ont suivi, on a mis sur Luther ça. Bon, ça fait 500 ans, ça devait pas être à ce moment-là. Ça va venir, c'était pas à ce moment-là. Eh oui, c'est impressionnant. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Le sixième ange versa sa coupe sur ce grand fleuve de l'Euphrate. Ça vous dit rien, l'Euphrate? L'Irak, l'Iran. Et il en dessécha l'eau pour préparer un chemin au souverain de l'Orient. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui vont vers les rois de la terre les appeler au combat pour le jour du Dieu Tout-Puissant. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et ne se dépouille pas de ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et ne dévoile sa honte. Et ils s'assembleront en un lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. En Hollywood aussi, hein, Armageddon. L'Euphrate étant un fleuve de la Turquie, Irak, ce passage indique clairement que l'Antéchrist, pour soutenir son trône ébranlé, en appellera à la puissance musulmane. 1892. Il avait le nez creux, hein. Comme à d'autres monarques, les dix rois, ses alliés, dont d'ailleurs il les fait mention. Ce seront trois démons ou trois suppôts de démons qui s'acquitteront auprès d'eux par leur pressante et bruyante persuasion pour le combat final. Ce lieu ne peut être que Jérusalem, le même où, pour les exterminer, descendra Jésus-Christ comme un voleur à l'improviste. Là où, combattant si énergiquement leur doctrine et leur arrachant tant de victimes, Enoch et Élie, seront présents. Enoch, c'est un patriarche du temps d'Adam, et Élie, c'est le prophète Élie. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va nous arriver dans tout ça? C'en est fait. Et l'Antéchrist, il se fit des éclairs, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Et ce tremblement fut tel que jamais depuis qu'il existe, les hommes n'en avaient ressenti un pareil. Et la grande cité fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui faire boire le vin de sa fureur. Et toutes les îles s'enfuirent, et toutes les montagnes disparurent. Et une grêle de la grosseur d'un talent tomba du ciel sur les hommes. Et ils blasphémèrent Dieu de l'extrême rigueur de ce fléau. Un talent, c'est entre environ 10 kilos. C'est un lingot. Vous voyez, c'est... Le septième ange sonna de la trompette et le ciel retentit de grandes voix disant « Le royaume de ce monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Il règnera dans les siècles des siècles. Et les 24 vieillards qui sont assis sur leur siège devant Dieu se prosternèrent et l'adorèrent en disant « Nous vous rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui êtes, qui étiez et qui devez venir, parce que vous avez reçu votre grande puissance et que vous régnez. » Les nations se sont irritées et le temps de votre colère est arrivé, le temps de juger les morts, de récompenser les prophètes, vos serviteurs et les saints, ainsi que tous ceux petits et grands qui craignent votre nom, et le temps d'exterminer ceux qui ont corrompu la terre. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance y parut, et il se fit des éclairs, des voix, un grand tremblement de terre et une grêle très forte. Ces événements, on le voit, se tiennent et s'enchaînent étroitement. La bête et son infernale troupe investissent donc Jérusalem. Ils viennent combattre les deux prophètes, Enoch et Élie, qui, leur mission achevée, ne sont plus protégés par le secours d'en haut, livrés d'abord aux dérisions et aux contradictions, comme le fut le Fils de l'homme, traité de jongleur et de visionnaire, persiflé, saturé d'opprobre. Sur leur tête, finalement, s'abattra la glaive du bourreau. Et ils ressusciteront. 3 jours plus tard. Ce miracle est le signal de l'avènement du règne de Jésus-Christ et de la ruine des impies. La patience divine est à bout. Impossible, après tant de forfaits, que ces blasphémateurs audacieux, ces adorateurs de Satan qui ont jeté la confusion, ne soient plus punis. Et alors là, c'est... Et donc, voyez-vous, il y aura la fin de cette souffrance. Mais il est bien évident, voyez-vous, qu'actuellement se met en place une sorte de société abstraite qui étouffe le cœur même de la vie humaine, c'est la famille, les enfants. Pour le royaume des cieux, on peut avoir une vie de prière, mais il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas tous devenir moines et moniales. Et la famille, dès qu'il y a des prêtres, des moines et des moniales, il y a des familles et des enfants. Dès qu'il y a des familles et des enfants, il y a des prêtres, des moines et des moniales. C'est lié dans un lien de surnaturel. Et donc, le divorce, la contraception, l'avortement, l'euthanasie des parents et la débauche et l'exhibitionnisme de toutes nos misères. On humilie actuellement les homosexuels à les pousser à un coming out, c'est-à-dire à se dire homosexuel, alors qu'on n'est jamais réduit à sa sexualité. On est dans un exhibitionnisme qui est largement hétérosexuel parce que nous-mêmes on tombe trop dans ce manque de pudeur vis-à-vis des homosexuels et de l'homosexualité. On oublie toute la corruption qu'il y a chez les hétérosexuels, par la contraception, par l'avortement. C'est quand même bien, ils sont bien plus nombreux que les homosexuels, et bien plus terribles pour notre futur, par l'extinction des familles et des enfants. Donc c'est même scandaleux. Et vous avez Pierre Palmade, qui est homosexuel, mais qui est un homme tourmenté, dépressif. Il a des hauts, des bas, et c'est un humoriste. Et à un moment donné, il est parti avec un jeune homme drogué, mais qui est prostitué. Et donc, ils sont montés ensemble dans son appartement, ça s'est mal passé, et le jeune homme a dit qu'il avait voulu le violer, sauf que ce jeune homme est un prostitué masculin, donc bon, un peu compliqué. On a démontré que c'était faux, lui-même a reconnu que c'était faux, parce qu'il voulait de l'argent, plus d'argent. Et là, à un moment, chez Ruquier, qui lui-même vit en couple avec un homme, Pierre Malmade dit, mais on en a marre des gays qui foutent la paix aux homosexuels. Parce que moi-même, je suis homosexuel, mais je la ramène pas tout le temps, j'en en parle pas tout le temps. Et cet épisode l'a montré à tout le monde, mais moi, j'en parle pas tout le temps. Et les gays, eux, en font toute une culture. Mais nous-mêmes, nous sommes influencés par cette propagande. Et on oublie que actuellement, un des péchés le plus grave, au risque de vous choquer, c'est la contraception. La contraception nous tue. Elle est proprement antéchristique. Voilà. Et voilà. C'est pour moi un des piliers du règne de l'antéchrist, c'est la contraception. Et ça date des années 30-50.
Les médicaments empoisonnent l'eau.
Comment ?
Les médicaments de la contraception empoisonnent l'eau.
Oh, oui, en plus. Mais ça, bon. Alors voilà, donc les conséquences de la défaite, c'est pour terminer, je n'ai pas le temps véritablement, la question du millénarisme, puisque la voyante d'Irlande, Marie de la Miséricorde Divine, du Livre de la Vérité, affirme qu'il y aura un règne de 1000 ans. Au moment de la fin de l'Antéchrist, la fin du faux prophète, et une première résurrection, une sorte de vie surnaturelle pendant 1000 ans, et une deuxième résurrection au bout de 1000 ans. Voilà ce qu'en pense l'Église en règle générale. Saint Jean, ils régneront 1000 ans avec Jésus-Christ, hein, les élus. Surgit dès le berceau de l'Église une doctrine appelée millénarisme, qui enseignait qu'à sa seconde venue sur la terre, après l'extermination de l'Antéchrist et l'enchaînement de Satan, Jésus-Christ régnerait visiblement en personne dans une durée de 1000 ans, avant le jugement dernier et la dernière résurrection de tout le monde. Et qu'ainsi la vérité, la justice, la divinité recevraient sur cette terre même, où elles ont été méconnues et outragées, une première et solennelle réparation. Alors, avec des personnes qui vivront sur terre, des ressuscités, qui, avec un corps glorieux, puisqu'ils auront été dans la vision béatifique, et des gens en état de grâce, pour 1000 ans, avec femmes et enfants. Alors moi, j'ai posé tout de suite la petite question, j'ai dit, mais il y aura la messe? On se confessera? Il n'y aura pas de péché? Voilà, bon. Les tenants de cette doctrine s'appuyaient pour l'établir non seulement sur le texte de l'Apocalypse, mais sur bien d'autres textes des divines écritures. Tout donne à croire, disent-ils, que Dieu eût régné visiblement sur la terre au milieu de ses créatures si Adam n'eût péché, puisqu'il conversait familièrement avec lui et se promenait dans l'Éden. Mais le Seigneur n'a pu établir son trône sur une terre souillée et maudite. Voilà. En ce temps-là, dit Jérémie, Jérusalem sera appelée le trône de Dieu. Le Seigneur, dit David, a choisi Sion, il l'a choisi pour sa demeure. Ô cité sainte, que de choses glorieuses on racontera de toi. Oui, c'est ici que reposeront mes pieds, dit Ézéchiel. C'est ici que j'habiterai parmi les enfants d'Israël. Ce lieu ne portera plus d'autre nom que celui-ci. Le Seigneur est là. Voilà. Donc là, c'est la théorie du millénarisme. Le Vatican, dans les années 40, dit que ce n'est pas sûr de l'enseigner, mais c'est pas condamné. Voilà. Et donc, j'en termine ici. Il y aura donc résurrection au second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette résurrection à la seconde venue du Sauveur, suivie du jugement des vivants et des morts, est une vérité de foi. Et là, nous serons libérés. Et vous voyez, l'Antéchrist, c'est vraiment très lié à l'Apocalypse. Vous voyez. Voilà. Avez-vous des questions? Vous voyez. Pourrez-vous dormir ce soir? Et vraiment, il y aura un temps de paix. Si vous voulez, vraiment, lorsque la vie terrestre se transformera, il n'y aura plus jamais de souffrance. Hein. Le paradis, le ciel, la vie éternelle, c'est le bonheur perpétuel. Hein. Oui.
À propos de la carte de la dame, je pense aussi à
oui, oui. Oui. Le cardinal Caffara, avant de mourir, à la création de l'Institut Pontifical Jean-Paul II pour la Famille, avait envoyé une lettre au Carmel de Leyra, Fatima Leyra, pour demander des prières. Et il eut la surprise d'avoir une réponse, non pas de la communauté ou de la Mère supérieure, qui avait transmis l'intention de prière, mais de Sœur Lucie elle-même. Cette lettre a disparu dans les archives de l'Institut Jean-Paul II pour la Famille, de manière un peu mystérieuse, de la main de Sœur Lucie. Hein. Le secrétaire du canal Caffara, je vous ai déjà dit pour certains, m'en a parlé, je l'ai rencontré. Et il m'a dit, cette lettre, je l'ai eue entre les mains, on l'avait mis dans les archives, ces archives ont été déplacées pendant les travaux, là où elles étaient déplacées, elles ont été encore déplacées parce que l'université du Latran a eu des travaux aussi, et quand toutes les cartons d'archives sont revenus, on n'a pas retrouvé la lettre. Mais le canal Caffara, dans une homélie, avait dit que dans cette lettre se trouvait cette phrase, l'ultime combat entre Satan et le règne de Dieu sera sur la famille et le mariage. Et donc pour reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y aura un certain judaïsme et un certain sionisme dans le règne de l'Antéchrist, qui siégera à Jérusalem, Mais il ne faudra pas tomber dans l'antisémitisme des nazis, s'il vous plaît, parce que l'antéchrist et le gouvernement mondial sera contre la famille. Et les juifs pieux sont pour la famille. Et c'est là, comme dit la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, dans les années 1820, « Je vis de nombreux juifs à la porte de l'église. Ils ne pouvaient pas encore entrer. » C'est joli, ça. Pas encore entrer. C'est la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Elle a vu les temps antéchristiques. Hein, si vous lisez la vie de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, c'est très simple. Elle a les visions sur l'Évangile. On en a tiré 3 livres. Vision sur l'Évangile. La Passion de Jésus-Christ. La vie de la Vierge, qui sont les extraits d'un même livre. Et vous avez un deuxième livre qu'on ne connaît pas du tout, qui est la continuation de ses visions pour le futur. Elle a vu Saint-Augustin, elle a vu Saint-Ambroise, c'est très drôle. Et voilà. Et le livre en allemand a été édité en 1865 et j'ai vu scanner dans une bibliothèque française sa traduction par le vicaire général de Versailles en français en 1870. Ça n'a pas été édité. Si, ça a été réédité par Teki. Ça s'appelle « La vie d'Anne-Catherine Emmerich ». Et elle dit, à un moment donné, en 1820 ou 23, « J'eus cette nuit une vision des plus merveilleuses. Je vis deux papes. » Et j'ose pas vous continuer, et deux églises. Une grande, où tout le monde pouvait entrer, franc-maçon et évangélique, qui veut dire protestant pour une Allemande, et une petite église persécutée, humiliée, 1820-1823. Je vis deux papes. Je terminerai là-dessus. Voilà.